France Culture.
Les midis de culture. Marie Laborie.
Qu'avons-nous fait d'Anne Frank ? C'est la question posée par le documentaire de Mona Achache et Lola Lafont. Adapté de son roman « Quand tu écouteras cette chanson », ce film revient sur la nuit que l'autrice a passée dans l'annexe où Anne Frank et sa famille ont vécu cachée pendant 2 ans et sur le regard que nous avons porté depuis sur son journal. Mona Achache et Lola Lafont seront mes invités à partir de 13h. Mais d'abord, on critique au programme aujourd'hui l'amour et la mort. Avec Péléas et Mélisande, mise en scène par Wajdi Mouawad à l'Opéra à Bastille, et la reprise par Thiago Rodriguez de sa pièce Antoine et Cléopâtre, c'est au théâtre de la Bastille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les midis, vous connaissez le menu, voici les convives. Marie Sorbier, rédactrice en chef de IO et productrice du Point Culture sur France Culture.
Bonjour Marie.
Bonjour Zoé Sfez, productrice de la série musicale sur France Culture.
Oui, bonjour.
Et bienvenue à toutes les deux. Il est considéré comme un des plus bels opéras du répertoire français, Péléas et Mélisande de Claude Debussy, et donné sur la scène de l'Opéra Bastille à Paris jusqu'au 27 mars. Et pour la première fois, c'est Wajdi Mouawad qui s'en empare. Pour le metteur en scène et directeur du Théâtre de la Colline, Péléas et Mélisande, c'est le massacre des innocents et la mort des poètes. C'est donc une atmosphère sombre et menaçante, voire morbide, qui se déploie sur scène. Créé en 1902, ce drame en 5 actes s'appuie sur un texte de Maurice Maeterlinck. Mélisande y est une jeune femme, découverte et scellée dans une forêt par Golo. Il en fait son épouse, mais hélas, c'est de Péléas qu'elle va tomber amoureuse, déclenchant la jalousie meurtrière de son époux. On commence par un avis rapide avec vous, Zoé Sfez.
Bon, écoutez, moi, je suis complètement enchantée. Il s'est produit quelque chose que je n'attendais pas, c'est-à-dire que je suis enfin tombée follement amoureuse de cet opéra, que j'arrivais à écouter au disque, que j'avais beaucoup de mal à vivre dans son intégralité quand j'allais le voir sur scène, la voir sur scène. Et du coup, je trouve que Mouawad a réussi un truc complètement fou. Il arrive à embrasser le propos de Debussy tout en gardant des éléments de son théâtre et il va compresser tout ça dans quelque chose qui nous permet de faire ce qu'on a souvent du mal à faire à l'opéra, c'est-à-dire apprécier une mise en scène, apprécier des comédiens et en même temps pouvoir partir dans sa tête. Et ça, c'est complètement fou, il fait un opéra en forme d'eau, or l'eau c'est le propos de cet opéra, donc je suis dithyrambique.
Marie Sorbier.
Oui, alors moi un peu moins, parce que alors je connais bien le travail de Mouawad, mais alors c'est une critique un peu étrange que je vais faire parce que sa mise en scène est complètement en retrait, c'est-à-dire qu'elle laisse la musique et le livret devant, mais en fait c'est peut-être une bonne idée qu'il ait fait ça, donc pour le coup je vais lui reconnaître ce geste d'humilité. J'ai trouvé cette mise en scène efficace, mais un peu paresseuse, et notamment il y a beaucoup de références très appuyées à d'autres plasticiens et d'autres metteurs en scène qu'on va peut-être citer, voire trop appuyées, mais ça on pourra en reparler. Après, c'est un moment à vivre qui est quand même très immersif, alors dans tous les sens du terme, et c'est quand même très agréable d'être dans cet univers mystico-aquatique de Maeterlinck. On passe quand même un très beau moment.
On écoute donc un extrait de ce Péléas et Mélisande. On entend donc Mélisande interprétée par la soprane Sabine de Vielle. Et Péléas, c'est le baryton Hugh Montague Randall.
C'est au bord d'une fontaine aussi qu'il vous a trouvé. Que vous a-t-il dit?
Rien, je ne me rappelle plus.
Était-il tout près de vous?
Oui, il voulait m'embrasser.
Et vous ne vouliez pas?
Non.
Pourquoi ne vouliez-vous pas?
Oh, j'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau.
Prenez garde, vous allez tomber. Avec quoi jouez-vous?
Avec quoi non qu'il m'a donné?
Ne jouez pas ainsi au-dessus d'une eau si profonde.
Mais moi ne tombe pas.
Comme il brille en forêt.
Voilà, Péléas et Mélisande, et je précise tout de même que c'est un extrait d'une répétition générale que nous avons entendue. Zoé Sfez, un opéra en forme d'eau.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut se dire que on va pas revenir ici sur toute la jeunesse de Péléas et Mélisande parce que ça ferait une heure en soi,
mais l'eau, on la ressent là.
L'eau, on la ressent. C'est-à-dire que Debussy, quand il écrit cet opéra, il veut révolutionner la forme lyrique tout court, et donc il tombe sur ce livret de Maeterlinck, qui est un livret profondément symboliste. On va y revenir, mais qui, c'est vrai, n'a pas perdu une goutte de modernité, voire depuis 2024, se colore de plein de choses qui sont complètement folles, notamment le rapport entre les genres, la question de la femme qui est blessée, la question de l'innocence. Bon, tout ça est hallucinant parce que c'est un texte qui, à l'époque, est profondément moderne dans le sens où les phrases sont très simples, comme vous l'entendez. Et Debussy écrit qu'il veut faire une musique où il y a une continuité constante, c'est-à-dire qu'il va construire un opéra contre l'idée de l'air, contre l'idée de la séquence par scène, et donc cet opéra, il coule vraiment comme de l'eau. L'eau est un motif récurrent, comme vous l'avez entendu ici. Tout se passe autour de fontaines, de grottes, de rivières. Les rencontres, on y perd des éléments de soi, on y perd sa vie, on y tombe amoureux. Donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre, comme ça, de la continuité, de quelque chose de très aqueux, de très poreux. Et c'est aussi la difficulté de mettre en scène ces opéras. Alors, pour avoir vu, moi, je pense, 3 mises en scène de Péléas et Mélisande, dont la dernière qui était celle qu'on pouvait voir à l'Opéra de Paris depuis, je crois, quasiment 20 ans, qui était celle, évidemment, de Bob Wilson, qui était une mise en scène à la Bob Wilson très épurée. La plupart des mises en scène font ça, hein, sur cet opéra, c'est-à-dire nous laissent avoir. Donc on est en gros dans un château, sur une tour, auprès d'une grotte. Donc on peut tout symboliser, c'est d'ailleurs vraiment le propos de Maeterlinck. Et alors là, ce que va faire Wajdi Mouawad, c'est que il va garder ça dans les sens, on va dire. Dans les sens, on est sur des lieux, il y a 3 niveaux de scène. Et il y a, évidemment, on va y revenir, cet écran sur lequel sont projetées des images. C'est pour ça que je pense que Marie fait référence à Biliola, des images en permanence d'eau. Il y a toujours un décor, parce qu'on est vraiment dans un décor dans le livret. Il y a toujours un décor. On va être dans la montagne quand on sera dans le château où Mélisande va épouser Golo, cet homme qu'il a rencontré au bord d'une rivière, qui est tombé amoureux d'elle, et elle a subi son destin, elle l'a suivi, et elle se retrouve enfermée dans un endroit avec ce livret qui nous dit qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un livret extrêmement poétique. Et ce que va faire Mouawad, c'est l'inverse pour moi d'une mise en scène paresseuse, c'est garder des choses qui ont l'air effectivement très simples, nous donner enfin ce truc dont moi je rêve toujours, c'est-à-dire des images dans lesquelles on peut se perdre quand on en a marre de suivre l'intrigue et d'être au plus près des personnages, nous d'aller avec la musique, d'aller avec le courant, si on veut de revenir sur nos interprètes qui jouent des choses extrêmement simples mais extrêmement précises. Et en faisant ça, il va non seulement complètement épouser le rythme de Debussy, mais en plus, comment dire ça, il va en plus jouer sur toute une série de tout petits non-dits qui existent dans le texte, des petits non-dits qui sont très très fins. Il y a des soupçons d'inceste, on comprend pas très bien quelles sont les filiations. Il y a évidemment cette Mélisande dont on sent qu'il s'est passé quelque chose avant. Ça lui est déjà arrivé, en fait, que des gens l'épousent et lui fassent du mal parce qu'elle n'avait pas choisi ce qui lui arrivait. Et il va jouer sur ça, sur des choses tellement fines et tellement délicates que moi je n'ai pas pu décrocher, ce qui ne m'était jusque-là jamais arrivé.
Zoé, on réabordera avec vous la partie vocale, mais pour revenir sur la mise en scène,
oui,
de Wajdi Mouawad.
Je disais paresseuse parce que elle est paresseuse pour moi artistiquement en termes de créativité. C'est-à-dire que là, Wajdi Mouawad n'a rien inventé. On est sur une scène qui n'évolue pas pendant tout l'opéra, hein. Donc en effet, il y a plusieurs niveaux. Alors c'est des niveaux symboliques. On a le niveau de la terre où sont les animaux éventrés, les animaux chassés, puisque Golo est un chasseur. Donc ça commence par des animaux. La première scène, c'est un acteur habillé en sanglier avec une flèche qui le transperce, qui parcourt la scène comme ça et qui la traverse. Donc il y a quelques images qu'on a déjà vues dans ces spectacles précédents. Là, c'est toute la grammaire de Mouawad qui s'exprime, et après tout, pourquoi pas. Et au fur et à mesure que l'opéra avance, sur ce premier niveau de scène, on a ces gros animaux éventrés, hein. Donc le cheval à la panse béante, il y a tout qui sort, les entrailles, le sang, voilà. Donc ça, c'est du Mouawad pur jus, et ça a du sens parce que ça correspond à cette violence un peu brutale et un peu premier degré de ce personnage de Golo, qui lui ne voit tout qu'à travers Mouawad dit ça, il ne voit qu'à travers un seul œil, c'est le cyclope, mais je vois bien ce qu'il veut dire, c'est-à-dire qu'il a une vision complètement univoque des choses, qui est l'inverse de nos deux héros, Mélisande et Péléas et Mélisande, qui eux voient tout en polyphonie et avec de l'eau partout et de la poésie et du symbolisme. Ce qui m'a beaucoup plu, moi, c'est de réentendre ce livret que je trouve, mais alors, incroyable, sublime. J'ai eu un plaisir dingue à le à prendre le temps de l'entendre dans le rythme de cet opéra-là. Et comme les chanteurs chantent comme ils parlent ou parlent comme ils chantent, enfin, il y a quelque chose de très clair dans la diction. C'est pas du chant d'opéra où parfois on se perd dans la signification. Là, ils adressent le texte, donc on l'entend parfaitement bien. Et c'est ça, c'est un plaisir fou, parce que ce livret qui peut paraître totalement désuet à première écoute est, je crois, pour le coup, vraiment actuel, dans le sens où enfin, il n'a pas d'actualité, donc il est universel. En fait, on pourrait l'écouter à n'importe quelle période du temps et de l'histoire et de la vie. Je pense que tout le monde peut comprendre les symboles qui sont à portée de main. Chacun l'interprétera comme il voudra, mais les symboles sont des symboles qu'on lit dans des contes d'enfants. On est vraiment dans un château avec un prince et une princesse, et puis une bague et une couronne dorée qui se perdent au fond de l'eau. C'est un texte qui peut vraiment se lire à différents degrés de lecture, et ça, c'est magnifique. Alors, pour la mise en scène, voilà, moi, Ouad, je crois qu'il est tombé amoureux de ce texte, comme vous, Zoé, bah, ouais. En fait. Comme on peut l'être totalement, et qu'il est resté en retrait. Alors, encore une fois, pourquoi pas ? Parce que dans ses précédentes mises en scène, il peut être très musclé. Mouawad, il peut en mettre un peu partout, ça peut dégouliner, ça peut être très présent. Et je crois que pour lui, c'était un geste d'amour et d'humilité de ne pas trop en faire. Et en effet, ce qu'il fait, c'est des vidéos, hein, grosso modo, avec ses trois niveaux de scène. Et on a des vidéos complètement atmosphérique, c'est-à-dire c'est pas des vidéos illustratives, mais on est dans une forêt, on est dans la grotte, on voit une rivière, on voit un lac, enfin tous les degrés de l'eau qui sont représentés. Elles sont un peu déjà vues, ces vidéos. Moi, j'ai rien vu de créatif là-dedans. Donc, j'étais un peu frustrée. Et en plus, les très belles images qu'on voit, alors là, pour le coup, c'est totalement pompé à Bill Viola. Alors, on peut dire que c'est un hommage, si on veut, mais quand même, la similitude est très, très forte. Vous savez, ces images où on voit ces corps de femmes, non pas tomber dans l'eau, mais remonter, c'est des corps de femmes noyées dans cette eau magnifique. Ces images sont sublimes. D'ailleurs, Bill Viola les avait montrées sur la scène de l'opéra. Je crois que c'était pour Tristan et Isolde. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de références à Tristan et Isolde dans cet opéra-là. Mais voilà, je me suis dit quand même, il aurait pu, même en restant humble et en retrait, peut-être créer au moins une image. J'étais un peu frustrée par l'acte créatif de Wajdi Mouawad.
Zoé Sesma, j'aimerais bien vous entendre sur le plateau vocal.
Oui, alors bon, vous avez compris, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que vraiment, il y a quelque chose de très fort qui fonctionne, et qui fonctionne, en fait, ça, j'enchaîne assez facilement sur le plateau vocal, parce que je pense que là où on sent sa patte, ces fameux corps au premier degré, c'est aussi tous les non-dits du livret, c'est-à-dire la violence de Golo, mais aussi vaguement, on se rend compte que pendant l'opéra, il y a aussi des gens qui meurent de faim. C'est évoqué comme ça, par petites touches. Bon, et donc, je trouve que ce qui conserve de lui fonctionne très bien avec le livret, qu'effectivement, pour moi, c'est pas de la paresse, c'est quelque chose de très délicat. Ce qu'on sent aussi, c'est qu'il a beaucoup bossé la direction d'acteur, vraiment, vraiment beaucoup, et la manière dont les corps s'expriment sur cette scène, ça, c'est rare, parce que tout le monde essaye de faire ça avec Pelléas et Mélisande. De toute façon, à un moment donné, il faut que ces gens soient fragile, etc. Là, il se passe quelque chose qui, pour moi, était vraiment éblouissant, c'est-à-dire un casse vocal complètement dingue, qui, en plus, physiquement, il se passe des choses que moi, j'avais jamais vues. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans du Wilson, évidemment, où on va incarner par la gestuelle, en fait, on délègue tout. Là, il se passe des choses extrêmement précises au niveau, justement, du regard. Il y a tout un truc de fétichisme, les cheveux, les yeux, les mains de Mélisande, et notamment les yeux. Tout le monde cherche ses yeux, parce que personne ne comprend ce qu'elle voit, et c'est aussi une manière de la posséder, comprendre son regard. Le casse vocal, donc, c'est Sabine de Vielle. Sabine de Vielle, si vous ne la connaissez pas, c'est l'une des sopranos les plus intéressantes depuis 10-15 ans. Qui a une couleur dans sa voix, bon ça c'est complètement impossible à expliquer quand on ne l'a pas senti, qui a des couleurs complètement dingues, mais c'est intéressant parce qu'elle fait Mélisande depuis 2015, mais moi je ne l'avais pas vue sur une grande scène. Elle a des couleurs très particulières parce qu'elle est très très forte et très belle, un très beau timbre dans le registre très haut. Or c'est un rôle de soprane, plutôt mezzo-soprane comme vous l'avez entendu, il y a des espèces de jaillissements comme ça dans la voix, et là elle trouve quelque chose, en plus elle est elle-même aussi face à une grande humilité dans ce rôle, elle n'est pas du tout dans des prouesses comme elle sait le faire, et ça fera agilité à la fois dans la voix et dans le corps, on est arrivé, je trouve, à quelque chose de vraiment que moi je n'ai jamais vu, d'intelligence, de discrétion, ce qui confirme pour moi que Sabine de Vielle est de très loin l'une des sopranes les plus intéressantes, et surtout une vraie amatrice, c'est une grande technicienne vocale, mais c'est une amatrice du jeu de scène, son corps est léger, son corps est beau, son corps est dans l'eau, quoi, il se passe quelque chose face à elle. Alors évidemment, on va en parler, c'est celui qui a été le plus applaudi, et évidemment, il est très 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 bon, hein, on va le dire, c'est Hugh, et là j'ai du mal à le dire correctement,
Hugh Montague Brendal,
un jeune ténor qui lui aussi a des couleurs et a une juvénilité dans son corps qui porte le personnage, qui l'aide, qui sont des personnages en général, c'est dur les ténors sur Pelléas, parce qu'ils arrivent avec des réflexes de scène qui sont des réflexes de ténor verdien ou de ténor un peu wagnérien, c'est-à-dire tout ce qu'on imagine du ténor, la poitrine grande ouverte, et Pelléas,
c'est vraiment la masculinité pas violente, c'est la non-masculinité, c'est une forme d'enfance, et donc ça c'est très très contradictoire avec ce que font les ténors. Lui il fait quelque chose de très intelligent, mais moi je dois dire que ce qui m'a bouleversée c'est les trois autres rôles, c'est-à-dire le fameux Golo. Donc Golo c'est l'héritier du trône, c'est ce chasseur, il veut posséder Mélisande, il va tuer le couple, hein. On ne spoil rien quand on dit ça, et là il est dans une vulnérabilité très grande. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est pas le Golo chasseur qui... On est vraiment sur ce que veut dire Ravel, c'est-à-dire ce que veut dire Debussy, très beau lapsus, et ce que dit Maeterlinck, c'est-à-dire la masculinité toxique, c'est un truc qu'on subit, ça nous arrive aussi, c'est pas un truc qui vient de nous. Et ça, c'est très 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 bien rendu, à la fois dans la voix, à la fois dans sa présence scénique. Il est décrit comme un géant, donc là il a des chaussures à plateforme, mais il se met à genoux, c'est-à-dire qu'il y a des moments où il se brise. Grand grand travail d'interprétation. Une petite note très importante, parce qu'on l'a à peine applaudi à la première et ça m'a rendu folle, Sophie Coche, l'une des mezzo-sopranes les plus belles du répertoire français, qu'on a énormément applaudi dans Werther par exemple à Bastille, qui est dans le rôle de Geneviève, c'est-à-dire la mère des deux hommes, quoique c'est ça qui est beau dans ce Maeterlinck et ce livret, Je rejoins Marie, qui avait fait rire à l'époque tellement il est simple et qui maintenant paraît limpide, quoi, qui est vraiment fou. Elle a un tout petit rôle, c'est une des plus grandes mezzo-sopranes. Quelle joie d'avoir d'aussi belles voix dans des rôles dits secondaires. Et on va quand même parler en deux secondes de l'orchestre, parce que Debussy, c'est l'orchestre.
Dirigé
c'est
l'un par des plus grands. Antonello Manacorda.
Manacorda, un Italien, très intéressant. Cet opéra, c'est évidemment une espèce d'orgasme pour les chefs d'orchestre, parce que Debussy, c'est l'orchestre, et que cet orchestre est devenu presque un narrateur, ça devient un personnage dans la construction de cet opéra. Il n'y a pas d'équivalent dans l'opéra français ou tout court du rôle de l'orchestre, et il le fait, il anime cet orchestre de l'Opéra de Paris avec une intelligence, une fluidité, une humilité aussi. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humilité et beaucoup d'intelligence de la part de tout le monde. Je pense vraiment que c'est une production qui fera date. Voilà.
Marie Sorbier.
Oui, juste un dernier mot, c'est parce que on parle d'humilité depuis tout à l'heure, parce que c'est un spectacle sans effet. Vous avez employé ce terme-là, mais c'est très juste. Il n'y a pas d'effet de mise en scène, il n'y a pas de spectaculaire au sens de théâtral du terme, et il n'y a pas non plus de prouesse vocale, comme on peut parfois l'entendre dans d'autres opéras. Il n'y a pas ces grands airs que tout le monde attend, que les gens applaudissent.
Il n'y a pas d'air.
Il n'y a pas d'air.
Il y a pas d'air. Il a construit l'opéra sans air.
Et ça, c'est assez beau à entendre, parce que, eh bien, finalement, on ne s'attache pas à la prouesse, ou on ne s'attache pas justement à l'image, celle que je chercher. Moi, je m'y attache un peu peut-être. Mais on finit par s'attacher au livret. La conséquence de tout ce qu'on vient de dire, c'est que on écoute une histoire. Et c'est suffisamment rare à l'opéra pour être dit, là, il y a une histoire qui se joue, une histoire qui se raconte, que tout le monde peut comprendre, parce que c'est une histoire d'amour entre deux enfants, donc vraiment, c'est quelque chose de très universel, d'amour et de mort. Et on vit avec eux, en fait. On est avec eux, on a presque l'impression de toucher l'eau, il y a quelque chose d'atmosphérique qui marche très bien. Donc pour un spectacle sans effet, c'est finalement pas si mal.
Péléas et Mélisande de Claude Debussy sous la direction d'Antonello Manacorda, mise en scène par Wajdi Mouawad à l'Opéra Bastille. C'est jusqu'au 27 mars prochain.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
C'est le premier spectacle qu'il a mis en scène au Festival d'Avignon, festival qu'il dirige désormais. C'était en 2015. Thiago Rodriguez reprend sa version d'Antoine et Cléopâtre sur la scène du Théâtre de la Bastille à Paris. Car si la pièce de Shakespeare y est bien présente, Thiago Rodriguez revendique aussi des emprunts, notamment au film de Mankiewicz et à Plutarque. Sur scène, pour camper les amants maudits, le duo d'artistes danseurs portugais Sofia Dias et Vitor Roriz, ils n'échangent pas, ne dialoguent pas, mais parlent de leurs personnages dans une histoire d'amour au-delà des frontières qui, on le sait, ne peut que mal finir. Qu'en a fait donc Thiago Rodriguez? Qu'en a-t-il refait d'ailleurs? On commence avec un avis rapide, Marie Sorbier.
Moi, j'avais très peur de le revoir parce que je l'ai vu à la création à Avignon il y a 10 ans, et je me souviens de l'effet qu'on avait vécu collectivement à ce moment-là. On ne connaissait pas Thiago Rodriguez, donc pour nous, c'était un petit nouveau qui arrivait, et on avait l'impression d'avoir vu un geste formel très puissant. Et donc, c'est toujours la crainte. Maintenant, on a vu X spectacle de Thiago Rodriguez qui est partout. Et donc, je me disais, mais est-ce que finalement, cette portée-là, elle existait vraiment ou c'était juste la découverte? Eh bien, j'ai été totalement rassurée. Non seulement elle existe, parce que c'est un geste formel, mais encore plus intéressant, je ne m'étais pas rendu compte en fait de ce qu'il avait fait il y a 10 ans. C'est puissant ce qu'il fait. Il crée en fait un théâtre, alors je vais employer des grands mots, mais que je qualifierais de pur dans le sens où il n'y a rien. C'est vraiment un théâtre qui coûte 3 sous. Et pourtant, il y a tout. C'est-à-dire que par le verbe, les images apparaissent. Je crois qu'on ne peut pas faire plus grande définition du théâtre. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, grand spectacle.
Zoé Sfax.
Bah, grand spectacle. Moi, contrairement à Marie, c'était le seul Thiago Rodriguez que je n'avais pas vu. Donc, j'étais très contente qu'on le reprenne. Je suis, moi, éblouie, comme souvent chez Thiago Rodriguez. Mais là, je vais dire presque encore plus, parce que c'est encore plus fou de découvrir un spectacle qu'il a fait il y a 10 ans quand on connaît ce qu'il a fait depuis. Ça m'aide presque à comprendre, effectivement, pourquoi je l'aime autant. Je dois dire que, là particulièrement, on va y revenir... La musique, la langue, le verbe, mais la musique en fait, le rythme que crée Rodriguez, c'est un truc fou, ça fait théâtre, c'est tout ce que vient de dire Marie, mais ce qui est très impressionnant, c'est comment cette musique est innaturelle quand on commence cette pièce, et comment à la fin du spectacle, on parle tous sa langue, on parle tous sa pratique du monde, toute la salle, et adhère. Et ça, c'est un truc quand même qui reste fou.
On écoute un extrait d'Antoine et Cléopâtre.
Des hommes sautent des navires en feu.
Des cœurs brûlés flottent sur les vagues.
Des cris de supplice, des cris de guerre et des cris d'adieu.
Cléopâtre.
Antoine.
Cléopâtre.
Antoine.
La bataille est encore incertaine, mais Cléopâtre s'enfuit.
Antoine.
Le navire de Cléopâtre fait demi-tour.
Antoine voit Cléopâtre s'enfuir.
L'arrière-garde de la flotte égyptienne fait demi-tour et accompagne Cléopâtre.
Antoine voit des dizaines de navires égyptiens abandonner la bataille.
Cléopâtre profite les vents favorables et cingle vers le Péloponnèse.
Antoine voit son ombre s'enfuir.
Cléopâtre.
César attaque, Agrippa attaque.
Cléopâtre.
Antoine décide de s'enfuir lui aussi.
Antoine et Cléopâtre sur la scène du théâtre de la Bastille, Marie Sorbier. Là aussi, il nous raconte une histoire, en fait.
Une histoire que l'on connaît parce que c'est l'Antoine et Cléopâtre de Shakespeare. Enfin, c'est l'Antoine et Cléopâtre de l'histoire, mais il en fait son Antoine et Cléopâtre à lui. Il le dit d'ailleurs, hein, qu'il s'est pas privé pour réécrire cette histoire comme lui la sentait. Alors lui, c'est lui et ses acteurs parce que le processus d'écriture s'est fait ensemble, donc à trois. Chaque scène était écrite l'une après l'autre pour que les acteurs puissent se l'approprier. Avec deux idées, il me semble, fondamentales. Qui sont, je trouve, en plus hyper intéressantes littérairement parlant, c'est-à-dire l'idée que, est-ce qu'à force de répéter des noms mythologiques, Antoine et Cléopâtre, ils ne s'épuisent pas, c'est-à-dire que tout le monde dit Cléopâtre, 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 mais qui est Cléopâtre? Qui est la femme derrière Cléopâtre? Pourquoi elle était amoureuse d'Antoine? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Ses souffrances, etc. Et donc, ils jouent sur ce problème-là en répétant, je sais pas, peut-être 200, 300 fois, j'ai pas compté,
700
mais c'est
fois.
700 fois, pendant 1h20, Antoine, Cléopâtre, Cléopâtre, Antoine.
Et qu'est-ce que ça produit, ça?
Ah, ça produit un effet d'abord hypnotique, parce qu'on comprend pas ce qui se passe. Au début, on se dit, ah, est-ce que ça va être un théâtre complètement formel où ils ne vont dire que Antoine et Cléopâtre pendant 1h20? On en a vu, pourquoi pas. Non. En fait, ça réincarne, très bizarrement, en fait, ça fait un double effet. D'abord, ça épuise en disant, non, ras-le-bol, Antoine et Cléopâtre, on a compris. Et d'un coup, ça les fait redevenir humains. Ça, c'est un procédé très étrange et on se demande toujours si on est tout seul à avoir vécu ce sentiment un peu bizarre. Et dès que vous interrogez les gens dans la salle, tout le monde vit la même chose. Donc, c'est un procédé de d'abord, je casse tout et ensuite, je redonne du sens. Et deuxième voie qui trace et qui est, je trouve, fascinante et encore une fois une définition du théâtre, c'est le présent. Il a ce gimmick d'écriture où les acteurs disent Cléopâtre entre au présent. Antoine
dans le
entre
présent.
Au présent. Dans le présent,
dans le
tout
présent.
À fait, dans le présent. Parce que pour lui, le présent est un lieu et qu'il les fait rentrer dans le lieu. Et c'est aussi, vous savez, les metteurs en scène ont cherché depuis la nuit des temps ce présent absolu de l'acteur où une fois qu'il rentre en scène, il doit être parfaitement au présent parce que c'est comme ça qu'on touche les gens dans la salle. Bon, et Thiago Rodriguez, il reprend cette grande utopie-là du théâtre, sauf qu'il la met concrètement sur scène, il emploie le mot et il nous dit, voilà, là, l'acteur qui joue Antoine entre dans le présent et va vous dire quelque chose. Et tous ces trucs d'écriture, parce que c'est vraiment des trucs dans le sens où ils sont répétés X fois pendant cette 1h20, fonctionnent étonnamment. Ils pourraient nous lasser, ils pourraient rester des trucs. Non, ça crée quelque chose de fou, c'est-à-dire qu'on voit très concrètement cette histoire d'amour sur la scène, on voit la bataille, on voit les bateaux qui s'échouent, on voit les conseillers, on voit cette histoire d'amour, lui qui se... Antoine qui repart à Rome, épouser la femme de César, la sœur de César, parce que voilà, pour des raisons politiques, sa douleur à elle, la mort qui approche, et sur scène, il n'y a rien, il y a une toile et il y a un mobile énorme, un peu à la Calder, vous voyez, donc avec des gros ronds jaunes et bleus qui se reflètent. Point barre. Pas de décor, pas d'accessoires. Eux qui racontent ça, et je ne sais pas pourquoi, grâce à la magie de l'écriture de Thiago Rodriguez, là pour le coup, on voit ce qu'ils racontent.
Zoé Spez, vous parliez de musique.
Ouais, il y a vraiment une musique. Alors, il y a plein de choses. Je reviens sur ce que dit Marie. Non seulement il répète sans cesse et il y a ses gimmicks d'écriture, mais ce qui est très contre-intuitif au début, c'est que c'est Cléopâtre qui décrit de manière indirecte ce que fait Antoine et Antoine qui décrit ce que fait Cléopâtre jusqu'à ce que, aux deux tiers du spectacle, ils se retrouvent et là, d'un coup, ils incarnent. Et là, on pleure, en fait, vraiment.
C'est vrai,
on est complètement en une scène. Ouais. Ils ne se touchent jamais dans tout ce sont des danseurs et ils projettent aussi. Ça n'est pas leur corps qui incarne, ce sont leurs mains qui projettent comme un spectre du personnage. Donc au début, on est très loin, on se dit, voilà, oh là, c'est du Claude Régis, c'est hyper formel. Et tout d'un coup, on est dedans. On est dedans aussi, pourquoi ? Et j'en reviens, cette langue, ce français, donc ce spectacle, je ne savais pas, était joué en portugais. Il a décidé, quelle heureuse idée, de le traduire en français et de le faire jouer à ses comédiens qui sont portugais, ces comédiens danseurs, qui, du coup, se retrouvent avec cette langue qui déjà est très formelle, mais qui en plus est ce français qu'ils ne maîtrisent pas, qui se balade dans leur bouche. Et il y a, on va pas spoiler, mais il y a une joute finale où des mots sont répétés à l'infini. À ce stade-là, on est tous convaincus. Et tous ces mots sont des mots qui s'enchaînent un peu comme trois petits chats, chapeau de paille, etc. Entre deux, dans une langue qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, ça devient une espèce de matière, de mobile, cette langue, dans leur bouche, qui comprend cette langue, mais qui en même temps est un peu à distance. Et il y a beaucoup d'ironie aussi, parce que quand on vous dit ça, il y a beaucoup d'humour sur ces mots, toujours le sang, je te tue, je t'aime, qu'on a entendu 200 fois. Donc il y a aussi cette distance face à tout ça. Pour en revenir à Thiago Rodriguez, c'est effectivement le verbe et le corps. C'est-à-dire, c'est ça la vie, c'est ça le présent. Et c'est vrai que ce qui est fou avec ce spectacle, c'est que on ressort de là, comme souvent dans les spectacles de Thiago Rodriguez, mais là c'est particulièrement vrai, avec une envie d'être en vie. Tu sors de là et tu te dis, moi aussi je veux être dans le présent. Tout petit mot, quelle bonne idée de garder ces interprètes portugais. Je supplie Thiago Rodriguez de ne plus faire jouer ses pièces par des acteurs français, parce que c'est quand même fou ce qui arrive à se produire par le langage.
Une dernière petite
Moi, je supplie Thiago Rodriguez de revenir à des gestes formels comme il savait les faire il y a 10 ans et comme il a vraiment perdu l'habitude de les faire dans les derniers spectacles, qui étaient beaucoup plus classiques et beaucoup moins intéressants. Quand on revoit ça, je me dis, mais en fait, c'est terrible. L'acte créatif, il est vraiment au début des carrières, quand les gens n'ont pas peut-être tous ces moyens, n'ont pas toutes les aides des théâtres qui dirigent pour créer. Là, c'est une petite forme, mais qui a une puissance, mais mille fois supérieur à ce qu'il a pu faire ces dernières années. Donc, s'il vous plaît, Thiago, revenez aux origines.
Et qui a même plus de puissance que celle que vous aviez vue il y a 10 ans, finalement.
Oui, finalement. En fait, elle vieillit pas. Ouais. Où elle vieillit très bien et elle marche toujours. En fait, la radicalité du geste est toujours là, ce qui est quand même pas gagné au théâtre en 10 ans. Et pour le coup, elle tient parce que c'était un vrai geste radical. Revenez-y, Thiago.
J'espère qu'il l'a entendu. Antoine et Cléopâtre, mise en scène par Thiago Rodriguez, c'est jusqu'au 14 mars au théâtre de la Bastille avec Sofia Dias et Victor Roriz. Zoé Sfez, Marie Sorbier, merci d'être venue dans les Midi de Culture. Évidemment, toutes les références, les infos de ces deux pièces dont nous vous avons parlé sont sur la page des Midi de Culture et sur le site de France Culture.